Chapitre 6e, la guerre. Dieu du ciel, s'écria l'archidiacre en sortant du parvis, et retirant vivement son chapeau d'une main, il passa l'autre sur ses cheveux grisonnants. Du chapeau sortait une vapeur qui, dégageant le cerveau surchargé de colère, prévenait peut-être une attaque d'apoplexie. Dieu du ciel, et levant la tête, l'archidiacre considéra le sommet des tours noircies de la cathédrale, faisant un appel muet à ces témoins vivants de la vie et des vertus de tant d'évêques de Barchester. « Je ne crois pas que j'aime jamais ce Monsieur Slope, » dit M. Harding. « L'aimer, lui ?» rugit l'archidiacre, s'arrêtant un moment pour donner plus de force à sa voix. Les corbeaux, lugubres habitants des tours, croassèrent leur assentiment. Les cloches antiques, en sonnant l'heure, firent écho à ces paroles, et les hirondelles, fuyant de leur nid, exprimèrent une tacite approbation. Aimer M. Slope, non. Il n'était pas vraisemblable qu'il y eût sur le sol de Barchester homme ou chose qui pût aimer M. Slope.
Ni Mrs. Proudie, dit M. Harding.
Ici, l'archidiacre s'oublia. Je ne ferai pas comme lui. Je ne scandaliserai pas mes lectures en transcrivant les paroles par lesquelles il exprima ses sentiments au sujet de la dame en question. Les corbeaux et les cloches furent moins scrupuleux. Au moment où les vibrations allaient s'éteindre, il courut dans l'air un son faiblement répercuté, celui d'une exclamation des plus malséantes. L'archidiacre leva de nouveau son chapeau pour se soulager en donnant issue un second jet de vapeur. Ici, un silence pendant lequel M. Harding s'efforça de croire à l'invraisemblable réalité de ce fait que c'était l'épouse d'un évêque de Barchester qui avait été ainsi qualifiée presque sur le parvis de la cathédrale, par la bouche de l'archidiacre, mais il ne put y parvenir. « L'évêque semble être un homme assez paisible, » suggéra M. Harding.
« Idiot !»
vociféra le docteur, qui pour le moment était incapable d'articuler plus d'un mot à la fois. « Oui, il ne semble pas être un homme brillant, » dit M. Harding. « Il a pourtant une certaine réputation d'habileté. Je suppose qu'il est circonspect et n'est point porté à sortir d'une certaine réserve. » Le nouvel évêque de Barchester était déjà aux yeux du docteur Grantly un être si méprisable qu'il ne voulait pas s'abaisser jusqu'à discuter sa valeur. C'était une marionnette, un pantin de cire, habillé en évêque, que l'on pouvait mettre sur un trône épiscopal ou autre pour le faire mouvoir ensuite à volonté au moyen de ficelles. Non, il ne méritait pas qu'on parlât de lui. Mais il y avait à parler de ceux qui manœuvraient ce pantin, et qui, après avoir apporté sa seigneurie comme dans une boîte, s'apprêtait à tirer les ficelles. C'était une terrible vexation pour l'archidiacre. S'il avait pu, négligeant le chapelain, combattre l'évêque, il n'y aurait rien eu de dégradant dans une telle lutte. Homme ou singe, une fois nommé par la reine, un évêque de Barchester eût été un adversaire respectable, s'il eût toutefois accepté le combat. Mais que pouvait faire un homme comme lui, le docteur Grantly, quand il se trouvait en face d'un antagoniste comme M. Slope? Si lui, l'archidiacre, refusait le combat, M. Slope marcherait triomphant sur ce qui aurait été le champ de bataille et tiendrait sous son talon le diocèse de Barchester. Si d'autre part, il acceptait comme adversaire l'homme que ce pantin d'évêque lui opposait comme tel, il serait bien forcé de parler de M. Slope comme d'un être réel, et d'agir avec lui comme avec un homme qui, étant son rival, serait jusqu'à un certain point au même niveau que lui. Il aurait à se rencontrer avec M. Slope. Ah non, cette pensée lui soulevait le cœur. Il ne pouvait rien avoir de commun avec un M. Slope. « C'est l'être le plus ignoble que j'ai jamais vu, » dit l'archidiacre. « Qui, l'évêque ?» demanda innocemment M. Harding. « L'évêque ? Non, je ne parle pas de l'évêque. Comment ce pauvre sire a-t-il pu recevoir les ordres ? On les confère à tout le monde depuis 10 ans. Auparavant, on était plus soucieux de la dignité de l'Église. » « Alors c'est de M. Slope que vous parliez. Avez-vous jamais vu un plus grossier animal ?»«
Je ne puis dire que je me sens disposé à l'aimer. »«
À l'aimer ?» vociféra de nouveau le docteur. « Naturellement, vous ne pouvez pas l'aimer. Mais quelle conduite allons-nous tenir avec lui ? Il est là, il y restera, il a mis le pied dans le palais, il ne l'en retirera que si on le jette dehors. Comment nous débarrasser de lui ?»«
Je ne crois pas qu'il puisse nous faire grand mal. »
« Ne pas nous faire grand mal ? Eh bien, vous aurez une autre opinion dans un mois. Que diriez-vous s'il s'installait à l'hospice ? Serait-ce pour votre bien ? » M. Harding réfléchit un moment et dit qu'il ne pensait pas que le nouvel évêque donne à la place à M. Slope. « S'il ne le met pas à l'hospice, il le mettra ailleurs, dans un emploi où il saura bien faire du mal. Je vous le dis, cet homme sera en toute chose le véritable évêque de Barchester. » Et de nouveau, le docteur Grantly souleva son chapeau et tristement, d'un air pensif, se passa la main sur le front. « Impudent coquin, oser me faire subir un interrogatoire sur les écoles du dimanche et sur les voyages du dimanche. Je n'ai jamais rencontré pareille impudence. Apparemment, il nous a pris pour deux candidats à l'ordination. Pour moi, Mrs. Proudie est plus désagréable encore. Quand une femme est impertinente, on n'a qu'une chose à faire, la laisser dire et l'éviter le plus possible. Mais je ne me sens pas disposé à supporter M. Slope. » Voyager le jour du sabbat. Et le docteur cherchait à reproduire le débit traînant de l'homme qui lui inspirait tant d'aversion. Voyager le jour du sabbat. Voilà les hommes qui ruineront l'Église d'Angleterre et discréditeront notre sainte profession. Ce ne sont ni les dissidents, ni les papistes que nous devons craindre, mais ce tas de cafards, d'hypocrites de bas étage qui s'insinuent en rampant parmi nous. Hommes sans principe arrêté, sans drapeau, qui remplacent les idées par une formule qu'ils vont répétant partout, comme cet imbécile avec son « voyager le jour du sabbat ». Le docteur Grantly ne répéta pas sa question à haute voix, mais il ne cessait de se demander comment agir avec M. Slope. Comment, devant le monde, montrera-t-il assez ouvertement sa désapprobation des doctrines et sa répulsion pour l'homme? Jusqu'alors, Barchester n'avait pas connu l'excès du formalisme dans les pratiques et dans les cérémonies. Tous les prêtres de la ville et du voisinage prêchaient en robe noire, comme leurs frères l'avaient fait avant eux. Ils n'avaient pas de cierge, allumé ou non, sur l'autel. Ils n'abusaient pas des génuflexions et se bornaient au cérémonial en usage depuis 100 ans. Les offices étaient lus avec une simplicité grave dans leurs églises paroissiales. Le chant était réservé à la cathédrale. Un jeune vicaire de Plumstead, qui sortait d'Oxford, avait, après 2 ou 3 dimanches, commencé timidement à chanter l'office au grand effarement de l'assistance. Le docteur Grantly n'était pas là, mais Mrs. Grantly, qui avait ses idées à elle sur la question, exprima au jeune ecclésiastique, après le service, l'espoir que cette fatigue n'aurait pas de suite fâcheuse, et offrit de lui envoyer toutes sortes de médicaments pour la gorge. Depuis ce jour, on n'avait plus chanté l'office à Plumstead Episcopé. L'archidiacre commença donc à méditer son plan d'attaque. Le docteur Proudie voulait abolir toutes les formes et toutes les cérémonies. Aussi le docteur Grantly eut-il un sentiment soudain de la nécessité qu'il y avait à les multiplier. Le docteur Proudie se laisserait sans doute amener par M. Slope à dépouiller l'Église de toute autorité collective. Il lutterait donc pour le maintien des assemblées du clergé et des droits qu'elles avaient eus jusque-là. Sans doute il ne pouvait lui-même chanter l'office, mais il trouverait bien des vicaires capables de le faire. Certainement il n'était pas disposé à faire le signe de la croix et à soutenir la présence réelle, mais sans aller aussi loin, il pourrait, en adoptant certaines pratiques, montrer manifestement son antipathie pour des hommes comme le docteur Proudie et M. Slope. « Je suppose que Susan doit faire une visite au palais, » dit M. Harding. « Oui, elle ira, pour la première et la dernière fois. Sans doute il ne sera pas à la convenance des chevaux de madame de venir de sitôt à Plumstead. Quand la chose aura été faite une fois, il n'en sera plus question. » « Il ne me semble pas qu'Eleanor ait à s'y rendre. Elle ne s'accorderait pas, je crois, avec Mrs. Proudie. »« Je n'y vois pas la moindre nécessité, » répliqua l'archidiacre, réfléchissant qu'une démarche, indispensable pour sa femme, ne l'était pas du tout pour la veuve de John Bold. « Il n'y a aucune raison qu'elle le fasse, si cela ne lui plaît pas. Pour moi, je ne pense pas qu'une jeune femme convenable doive subir la répugnante nécessité de se trouver avec cet homme dans le même salon. » On se sépara. M. Harding alla chez sa fille. L'archidiacre chercha la solitude dans sa voiture qui l'attendait. Les nouveaux habitants du palais n'exprimèrent pas, au sujet de leur visiteur, une opinion plus flatteuse que ceux-ci ne l'avaient formulée sur leur compte. Ils n'eurent pas tout à fait l'énergie de langage du docteur Grantly, mais ils éprouvèrent la même antipathie personnelle. Ils comprirent aussi bien que lui qu'une bataille était inévitable et que l'autorité du Proudéisme ne pouvait se fonder sur les ruines du Grantéisme. Dans le fait, on peut se demander si M. Slope n'avait pas déjà dans sa tête un système de stratégie mieux préparé, une ligne de conduite plus minutieusement tracée que l'archidiacre. Le docteur Grantly marchait au combat par haine de l'homme. M. Slope était résolu à l'avance à haïr l'homme parce qu'il avait prévu la nécessité de le combattre. Quand il avait examiné la carte du pays avant d'entrer à Barchester, il avait eu l'idée de se concilier l'archidiacre, de l'amener à la soumission à force de cajolerie et de flatterie, et d'obtenir sur lui l'avantage par la ruse plutôt que par les armes. Mais il comprit bien vite que la ruse serait impuissante contre un homme tel que le docteur Grantly, et il résolut d'avoir recours aux armes. Voyant que la guerre avec le docteur Grantly et ses adhérents était pour lui une nécessité de position, il s'étudia à trouver les moyens les plus sûrs d'offenser son rival. Bientôt après son arrivée, l'évêque avait fait savoir au doyen qu'avec la permission du chanoine qui était alors de service, son chapelain prêcherait à la cathédrale le dimanche suivant. Il se trouva que le chanoine de service était l'honorable et révérend docteur Wesley Stanhope, en ce moment très occupé sur les bords du lac de Combe, à augmenter la collection de papillons uniques au monde qui a donné à son nom tant de notoriété. Pour mieux dire, c'est lui qui aurait été de service sans les papillons et sans l'agrément que les voyages, dans la belle saison, offrent aux esprits curieux des beautés naturelles. Et le vicaire, qui devait prendre sa place en chaire, accepta de très bonne grâce que M. Slope fît sa besogne. M. Slope prêcha donc. Et si un prédicateur éprouve une satisfaction légitime à se voir écouté, M. Slope put jouir de cette satisfaction. J'ai des raisons de croire qu'il l'éprouva en effet, et qu'il descendit de la chaire avec la conviction d'avoir bien et vigoureusement frappé son coup. Dans cette circonstance, le nouvel évêque prit place, pour la première fois, sur le trône épiscopal. On avait préparé de nouveaux coussins, de nouvelles tentures écarlates avec bordures et franges dorées. Le trône même, en vieux chêne artistement travaillé, élevait jusqu'à la moitié de la hauteur du chœur ses tourelles sculptées et ornées de figurines grotesques. Il avait été épousseté, lavé, frotté et avait tout à fait bon air. Tout Barchester alla entendre M. Slope, soit pour l'entendre vraiment, soit pour contempler le nouvel évêque. Tous les gros bonnets de la ville étaient là, ainsi que les chapeaux les plus luisants du corps clérical. Pas une stalle n'était vide. Si quelques chanoines étaient en ce moment en Italie ou ailleurs, leur place était occupée par des ecclésiastiques que la solennité avait attirés par troupes à Barchester. On voyait le doyen, un gros vieillard, que l'âge empêchait de suivre régulièrement les offices, l'archidiacre, le chancelier, le trésorier, le chantre, les chanoines, les laïcs qui avaient le privilège de siéger dans le chœur, tous prêts à entonner en l'honneur de l'évêque un harmonieux cantique de bienvenue. La cérémonie fut belle, comme toutes l'étaient à Barchester. Le chœur formait un excellent ensemble, et les voix des solistes avaient été choisies avec soin. Les psaumes, le Te Deum, les litanies eurent une exécution parfaite. Les litanies étaient l'œuvre de prédilection de M. Harding, le triomphe de son talent de compositeur et de sa voix. Les assistances nombreuses inspirent les artistes, et quoique M. Harding n'en eût peut-être pas conscience, il se surpassa lui-même. Enfin, M. Slope monta en chaire. Il prit pour texte une ligne tirée des préceptes de saint Paul à Timothée sur la manière dont un pasteur doit diriger les âmes confiées à sa garde. Il était évident que le bon clergé de Barchester allait recevoir une leçon. « Prends soin de te montrer à Dieu digne de son approbation, ouvrier qui n'a point à rougir, dispensant avec droiture la parole de vérité. » Tel fut son texte. Et l'on peut croire que le prédicateur s'imposa sur le champ à l'attention d'un auditoire tel que celui qui l'écoutait. Quelque opinion que l'on pût avoir de M. Slope à Barchester, avant qu'il commençât son discours, il n'y eut pas, quand il eut terminé, un seul de ses auditeurs qui le jugea un sot ou un poltron. Tout d'abord, M. Slope fit adroitement entendre que, si humble que fût sa personne, il était le représentant et l'organe du prélat illustre qui siégeait en face de lui. Puis il définit avec précision la conduite que le prélat serait heureux de voir tenir par les ecclésiastiques soumis aujourd'hui à sa juridiction. Et il suffira de dire que les points sur lesquels il insista étaient justement ceux qui étaient les plus désagréables aux prêtres du diocèse, les plus opposés à leurs habitudes et à leurs opinions. Après avoir ainsi expliqué comment, selon lui, un prêtre doit se montrer à Dieu digne de son approbation, ouvrier qui n'a point à rougir, il continua en montrant comment il fallait dispenser aux fidèles la parole de vérité. Il proscrivit ce qu'il appelait l'emphase dans les lectures. Il traita de profane le sentiment religieux qu'excitait dans les cœurs non le sens, mais le son des paroles. Dans le fait, il désapprouva toutes les pratiques suivies jusqu'alors à Barchester. Prêchant dans la chaire de la cathédrale, il ne pouvait dire ouvertement qu'il fallait retrancher le chant des offices dans la cathédrale. Il aurait dépassé son but et se serait rendu ridicule par exagération au grand plaisir de ses auditeurs. Mais il pouvait, ainsi qu'il le fit, faire allusion à la pratique du chant dans les églises paroissiales. Or, nous avons vu que cette innovation, une fois tentée, n'avait pas réussi. Et partant de là, il en vint à regretter la prépondérance illégitime qu'avait eue, selon lui, la musique sur l'esprit religieux, dans le magnifique office que l'on venait d'entendre. Il reconnaissait cependant qu'il ne fallait point abandonner brusquement les pratiques des ancêtres. Ce serait outrager les sentiments des personnes âgées. Dans le principe, la religion de la foule avait été une affaire d'imagination. Mais avec le temps, il était devenu nécessaire que le chrétien raisonnât sa foi, ne reçût pas seulement la parole sainte, mais qu'il la dirigeât, qu'il n'entendît pas seulement, mais qu'il comprît. Ces paroles de notre office du matin, qu'elles sont belles, qu'elles sont justes, qu'elles sont intelligibles quand elles sont lues avec une voix claire et avec une gravité simple. Mais combien la pensée en est obscurcie et altérée par le charme profane de la musique, etc., etc. Était-ce là un sermon à prêcher devant l'archidiacre Grantly, le chantre Harding et tous les autres, devant un doyen et son chapitre assemblés dans leur propre cathédrale, devant tant d'hommes qui avaient vieilli dans l'exercice de leur ministère avec la conviction d'avoir toujours agi pour le plus grand bien de la religion? Et celui qui les traitait ainsi était un parvenu dans l'Église. Ce n'était ni un recteur, ni un vicaire, mais un simple chapelain, un intrus. Et il fallait rester là, assis. Il ne pouvait ni se boucher les oreilles, ni quitter l'Église tant que durerait l'office. Ils étaient contraints d'écouter sans pouvoir lancer sur le champ la réplique méritée. Reconnaissons qu'au moins le sermon de M. Slope n'avait pas été ennuyeux. Il avait traité avec une parole vigoureuse un sujet qui ne pouvait être indifférent à son assistance. Pendant 40 minutes, on l'écouta avec une attention muette. Mais les chanoines échangèrent des regards d'impatience et de colère. Les narines dilatées fumaient d'indignation. Les pieds s'agitaient, les corps se tournaient et se retournaient dans les stalles, signe évident du trouble des esprits. Enfin, l'évêque, qui de toute l'assemblée n'avait pas été le moins surpris et dont les cheveux s'étaient presque dressés de terreur, donna la bénédiction, mais sans cette dignité calme qu'il s'était étudié à prendre dans le secret de son cabinet, et l'assistance s'écoula.